Les gens, effectivement, vivent toujours dans une ambiance de peur et de précarité. Parce que chaque jour, on entend des cas d'enlèvement, des cas de violation des droits, des cas de viol, des cas de vol. Donc, les gens ne se sentent pas encore dans une situation de vie normale, disons. Pour confirmer, pour appuyer aussi cette réalité hein, qui fait partie de la quotidienneté du Banguissois et du Centrafricain. Je peux dire deux choses. La première, c'est qu'à l'ère où le président prêtait serment, l'un des deux quartiers qui avait été le cible d'une attaque très importante le mois d'avril a été encore une fois bouclé. Donc, on ne peut plus entrer ou sortir librement de ces quartiers. On fouille systématiquement toutes les personnes. Beaucoup de familles ont commencé à fuir. En proie à la peur, à la terreur. Et les chefs même du quartier ont dû prendre fuite parce que le ministre de la Défense a menacé, s'il ne reçoit pas les noms des personnes qui seraient proposées, hein, ce seront eux-mêmes les victimes de cette situation. La deuxième chose, c'est que l'archevêque de Bangui est de retour d'une tournée qu'il a faite à Bouzoum, Bossangwa, des zones récemment. Depuis le début, mais récemment aussi, de façon particulière, victime d'exactions, il y a eu des incendies, des cas encore de meurtres, de tueries. Et il a encore une fois crié à la radio diocésaine en disant « Les gens encore meurent, les gens encore fuient. Il y a des villages encore qui sont déserts car les gens craignent la Seleka et donc sont obligés de vivre dans la brousse, dans la forêt, dans des conditions de vie qui sont extrêmement précaires. »
Est-ce qu'il y a un effort de la part des autorités pour rétablir la stabilité ou bien, comme le laissent entendre certains observateurs, il y a un certain laxisme?
L'impression qu'on a, c'est qu'il y a un manque d'autorité effective. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mots, beaucoup de propositions de la part du gouvernement, mais ce qu'on voit, c'est une sorte d'anarchie de la part des forces armées de la Seleka. Et donc, en effet, c'est comme s'il n'y avait pas d'efficacité, pas d'harmonisation dans ce plan de remise de la sécurité dans les pays.
Il y a une nostalgie de l'ère Bozizé?
Ça, je ne peux pas le dire parce qu'une partie de la population, quand même, n'était plus contente non plus de Bozizé. Ce qui est sûr, c'est que les partisans de Bozizé retrouvent plus de force dans leur appartenance politique à cause justement des injustices que l'actuel régime n'est pas en train d'éviter.
Et comment se place l'Église dans ce cadre-là?
L'Église, je peux dire, a été l'unique point de lumière hein, dans tous ces moments sombres. Je pense que s'il n'y avait pas eu l'Église, probablement il y aurait eu une grande tragédie, plus grande encore, plus importante encore de celle qu'on a vécue. L'Église a toujours dénoncé les injustices, est toujours allée là où les gens souffraient pour porter de l'aide et aussi pour que leur voix, la voix des gens qui souffrent, puisse arriver à de grandes instances pour demander justice, pour demander la paix, pour demander le retour de la normalité.
Qu'en est-il du dialogue avec les autres confessions, en particulier l'islam? Est-ce que vous assistez à une recrudescence, une apparition de nouvelles tensions ou...
Du côté de la population qui souffre chaque jour des oppressions, des injustices, et qui voit que c'est surtout le côté chrétien à être victime. Malheureusement, il y a une essence d'une sorte de sentiment de vengeance. Mais du point de vue des leaders religieux, le message est univoque. Donc, depuis le début de cette situation, les leaders catholiques, protestants et musulmans sont unis dans une plateforme qui ne cesse jamais de demander de ne pas transformer cette guerre qui est essentiellement politique, économique, en guerre religieuse. Toujours en Centrafrique, les différentes confessions ont cohabité pacifiquement et rien n'empêche qu'ils puissent continuer à cohabiter pacifiquement.
Une période de transition politique s'ouvre en Centrafrique, si la feuille de route est suivie, qui devrait porter à des élections générales d'ici 1 an et demi. C'est quelque chose qui paraît illusoire et bien loin des préoccupations de la population.
La population a du mal à croire qu'effectivement 18 mois seront suffisants pour arriver à cela. Si vous imaginez seulement une chose qui, pour moi, est affreuse, une des actions constante de la SERECA à l'entrée dans chaque localité, c'était la destruction systématique des archives de l'administration. Donc, on ne sait plus qui est centrafricain. Il n'y a plus une trace de l'histoire du pays. Comment organiser des élections quand on ne sait plus qui est centrafricain et qui ne l'est pas? Même s'il y a cette situation dramatique, je peux aussi témoigner d'une grande espérance du côté de la société civile et du peuple. Donc c'est une contradiction qui est constante. D'un côté, la dramaticité de la situation. De l'autre côté, on ne cesse jamais d'espérer et d'essayer de mettre sa propre pièce pour essayer de construire et d'arriver effectivement à la démocratie.
Régulièrement, le spectre d'une catastrophe humanitaire a été brandi, a été évoqué. C'est quelque chose qui est toujours d'actualité?
Oui, c'est toujours d'actualité parce que jusque-là, les aides sont bloquées. Donc, toutes les institutions disent oui, on est disposé à vous aider, mais d'abord la sécurité. Et les gouvernements n'arrivent pas à rétablir la sécurité. Quelques ONG ont recommencé à acheminer des aides vers la Centrafrique, mais je disais en séjour, ces aides sont bloquées à Douala, au port. Donc, pas de possibilité pour les faire arriver en Centrafrique, toujours pour les problèmes de la sécurité. Les gens continuent à se cacher dans la brousse. Dans la brousse, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de médicaments. Beaucoup d'hôpitaux ont été saccagés. Donc, il y a rupture des stocks des médicaments un peu partout dans les pays, même dans la capitale. La situation, effectivement, est très préoccupante.